Le Grand Charivari, Dominique Muche.
Bonjour à tous et à toutes, merci de vous réveiller avec nous ce samedi matin, je vous souhaite un excellent week-end. Sur notre ardoise aujourd'hui, nous avons noté ce festival de création contemporaine qui continue à nous surprendre, à nous titiller le cerveau, c'est jusqu'à la fin de ce mois de mai, il s'agit du Kunsten Festival des Arts. Olivier Espel nous fera découvrir deux jeunes chorégraphes bruxellois, Radouane Mriziga et Louise Van Est. Il a également pointé la présence, pour la première fois en Belgique, d'une compagnie de Barcelone, El Conde de Torrefiel. Et puis Caroline Lamarche nous dévoilera son coup de cœur de la semaine. Il s'agira davantage d'une relecture que d'une lecture. Une invitation à nous replonger dans un des plus beaux livres de Romain Gary, La promesse de l'aube. C'est un hommage à sa mère, une femme exceptionnelle, qui occupera une place importante, peut-être trop importante d'ailleurs, dans sa vie. Et puis enfin, la science sera au rendez-vous avec Alexandre Weinberg. Concours Reine-Elisabeth oblige, notre professeur Nimbus se livrera à un exercice de comparaison. Quelles sont les cordes qui sonnent le mieux? Celles du mythique Stradivarius ou bien celles du violon moderne? Mais pour l'heure, nous accueillons non pas un seul invité, comme c'est l'habitude, mais trois. Impossible en effet de choisir un seul membre du collectif transquinquennal sans trahir les deux autres. C'est vrai ça? Et puis après tout, un collectif, c'est un tout indissociable. Est-ce que c'est vrai ça? On verra tout à l'heure, on verra tout à l'heure. Bref, je vous salue Bernard Breuse, Miguel Declerc et Stéphane Olivier. Et puis, quand on a envie de s'informer aujourd'hui, le geste le plus banal, c'est d'aller vadrouiller sur Internet. Alors qu'est-ce que je trouve? La première phrase que je découvre sur votre site, « Transquinquennal déteste le théâtre et c'est pour ça qu'il en fait ». Et en effet, vous en faites du théâtre depuis 25 ans. Un théâtre hors normes qui se réinvente à chaque spectacle, avec un regard ironique sur notre monde qu'il questionne et à travers un dialogue permanent avec le spectateur. Alors pourquoi aujourd'hui Transquinquennal? Eh bien parce que effectivement c'est le 25e anniversaire de Transquinquennal, parce que vous avez lancé aussi il y a quelques jours pour fêter l'événement votre prochain projet qui se concrétisera en 2016. C'est un vrai cadeau, en tout cas c'est vous qui le dites, empoisonné ou pas, c'est ce que nous verrons plus tard. Et puis nous allons vous rencontrer aussi à travers les musiques que vous avez choisies pour nous. Et tout à l'heure, Paul Hermand se fera un plaisir de vous adresser quelques paroles bien senties. Mais tout d'abord, au seuil de cette émission, comme toujours, il y a les trois questions rituelles. Alors d'habitude, c'est un invité qui reçoit un kit de trois questions. Alors cette fois-ci, on a partagé le gâteau en trois parts. Alors la première question, quel est le grand charivari de votre vie? Qui répond?
Alors, c'est moi qui vais répondre.
Miguel Declerc?
Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que est-ce qu'on est trois, est-ce qu'on est indissociable ou pas? Et c'est une question que je me suis posée sur la façon dont j'allais répondre à quel est le grand charivari de ma vie. Est-ce que je devais répondre en mon nom personnel en dehors de Transquinquennal? Ou est-ce que je devais plutôt considérer le grand charivari par rapport à Transquinquennal? Et puis je me suis dit que finalement je devais pas choisir. Et je me suis dit qu'au niveau personnel, bon, c'est extrêmement bateau, mais allons-y, comme ça c'est fait. C'est la naissance de ma fille qui a provoqué toutes sortes de remue-ménage avec des ondes de choc multiples. Et principalement parce qu'en fait, je n'étais pas là quand elle est née. J'étais en tournée avec un spectacle, donc pas de Transquinquennal, de la compagnie dont je faisais partie avant. Et que, donc d'emblée, s'est posée la question de la confrontation des agendas, celui du théâtre. Jusque-là, l'art, l'insouciance de la créativité absolue. Et puis d'un seul coup, on a cette espèce de petite chose bruyante et extrêmement tyrannique qui vient imposer sa vie à elle. Donc quelque part d'emblée, c'est pas si personnel que ça parce que j'étais tiraillé déjà entre deux modes de fonctionnement collectif qui avaient chacun leurs agendas propres. Et il se fait que à cette époque-là, donc c'était le milieu des années 90, J'ai assisté pour la première fois à un travail du groupe Tejestan qui passait au Kunst. Donc c'est aussi une forme de rendre hommage aux anniversaires, etc. Et c'était l'adaptation de La mort de Danton qu'ils avaient présentée. Alors à l'époque, on se targuait très fort de travailler sur lycée et maintenant, le rapport direct au spectateur. Et de ce que j'avais entendu de ce spectacle, je me suis dit, il faut absolument qu'on aille voir ça. Et effectivement, j'étais très très impressionné par leur façon à eux, à la fois extrêmement simple et directe de s'adresser aux spectateurs. Et en même temps, de n'imposer aucune façon de voir les choses. Je me rappelle du monologue de Frank Verkreuz, donc le monologue de Robespierre, quand il parle de la vertu. Et c'était absolument impressionnant, d'autant plus impressionnant maintenant qu'on a entendu quelques discours vraiment bien sentis aussi. Mais à l'époque, c'était vraiment très, très impressionnant. Donc voilà, il se fait que à cette représentation participaient aussi des membres du futur ou en voie de formation groupe Dito Dito avec lesquels j'allais passer plus de temps un temps que je ne soupçonnais pas du tout à l'époque. Et puis c'est aussi à cette même époque-là, donc c'est le troisième petit élément du charivari à conséquences multiples, c'est que Transquinquennal m'a proposé de participer à la concrétisation, une des premières concrétisations de la pièce qu'ils avaient écrite, qui était Chômage, un thème toujours d'actualité. Et j'étais aussi absolument séduit par leur manière d'entretenir et de survivre et de gérer l'air de rien, une espèce d'immense chaos dans lequel tout le monde parlait, tout le monde prenait la parole pour dire les idées les plus saugrenues. Et je me suis dit que oui, bah, si ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas continuer. Et puis quand les ateliers d'échange desquels je faisais partie avant se sont dissous, j'ai un peu erré et puis j'ai sonné à leur porte pour voir s'ils voulaient bien de moi dans leur groupe. Et voilà.
Merci Miguel Leclerc. Et l'air de rien, vous en avez dit beaucoup, non seulement sur vous-même, mais aussi sur Transquinquennal finalement. Voilà. Ça, c'était la première question. Alors la deuxième, à quoi bon l'art et la culture? Je ne sais pas qui a choisi cette question.
D'abord, je voudrais m'inscrire en faux, ce n'est pas Miguel Leclerc qui a parlé, c'était Bernard Breuse, mais voilà, on est à la radio.
On est un collectif, donc vous êtes tous interchangeables.
Absolument. C'est l'idée même du collectif, en fait. C'est, est-ce que l'individualité artistique est si importante que ça? Et c'est quoi l'individuel artistique? On met en avant l'artiste comme, j'ai envie de dire, comme monôme fondamental à l'art. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où ça se passe. Je pense à la peinture, c'est difficile de peindre à plusieurs. Mais le théâtre est un art collectif inévitablement par essence. Donc on ne peut pas le faire autrement. Donc d'une certaine manière, voilà, la boucle est bouclée dans ce que je voulais dire. Et sur la question, oui, c'était moi qui ai décidé de m'en occuper un peu. Et j'ai plein de réponses. Plein. Mais
on a une heure d'émission.
Formidable. Mais je me suis dit, je vais d'abord m'attaquer à la question même. À quoi bon l'art et la culture? Parce que le « à quoi bon » m'a titillé dans le sens que je me suis dit, mais c'est de l'aquabonisme. C'est une sorte de lassitude, de fatigue. C'est quoi cette attitude, en fait, de fatigue ou de pessimisme, d'une certaine manière, de bataille perdue d'avance? Alors, je peux comprendre que sur les assauts que la culture subventionnée subit, on ait ce genre de réponse, mais pour moi c'est, et là je rebondirai facilement avec une citation de Walter Benjamin, qui est un auteur sur lequel on a travaillé sur le spectacle 41, qui disait « il faut organiser le pessimisme ». Et quoi de plus beau que d'organiser le pessimisme, même si on est pessimiste, dans le sens que c'est une manière absolument optimiste d'envisager les choses. Et donc pour moi la question « à quoi bon » ne se pose pas. Après, en effet, la culture, l'art, tout ça, il y a énormément de réponses dans plein de livres très intéressants à lire. Et d'une certaine manière, il n'y en a pas de réponse à cette question. Peut-être que la réponse pour moi la plus intéressante, c'est dans une conversation que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Vinciane Després, qui est une philosophe mais aussi éthologue, qui travaille à Liège, et je lui parlais de ce qui constituait la nature humaine par excellence, et que l'art était peut-être quelque chose de très particulier à l'homme. Elle me disait, mais il y a des poissons qui organisent très très bien les choses, leur paysage, au moment de la reproduction. Alors on peut penser que c'est uniquement pour des raisons reproductionnelles, mais on peut aussi penser qu'il y a derrière autre chose. Et on peut penser que l'homme, par exemple, organise l'art ou la culture uniquement pour des raisons reproductionnelles. Après tout, il ne s'agit jamais que de séduire des femelles. On pourrait dire ça comme ça. Mais qu'il y a aussi autre chose. Et donc, et là, et je terminerai par ça, ça me fait penser à quelqu'un aussi avec qui on cite beaucoup de gens, avec qui on a eu le plaisir de travailler. Mais voilà, c'est un auteur japonais qui s'appelle Horisa Hirata. Et il a été invité dans un colloque qui s'occupait de la santé de l'esprit. Et il posait comme question préliminaire, mais vous vous demandez sans doute ce que je fais ici, dans la santé de l'esprit. Et il disait, moi aussi, je me pose un peu la question. Et puis il disait, mais il y a quand même peu de choses, et lui parlait du théâtre, qui s'occupent de la santé de l'esprit, à part des thérapies qui s'en occupent. Et en effet, dans la société dans laquelle on vit, on peut penser que il y a la religion, sans doute, il y a toute la part de la religion qui est liée à la métaphysique, et par la religion, par le biais de la religion, de la philosophie et peut-être des arts. Et pour moi, c'est une des réponses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'occupe d'autre chose, qui s'occupe de l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui s'occupent du corps, de nos satisfactions, de nos désirs, de nos besoins. Et puis celui-là, c'en est sans doute un. Pour moi, c'est de cet ordre-là. C'est irrationnel et très pulsionnel. Donc, je ne me pose pas la question de savoir pourquoi je fais ça. Il se fait que je pense que... Et là, je termine par une belle citation, j'aime bien celle-là, c'est celle de Rilke qui répondait dans Lettre à un jeune poète « Et si vous n'écriviez pas de la poésie, est-ce que vous mourriez » dit-il au jeune qui lui envoie, qui lui pose la question. Voilà, d'une certaine manière, je pense que moi je mourrais, sans doute pas de faim, mais sans doute, l'alcool me semble une très très bonne solution par exemple. C'est bon l'alcool. J'ai arrêté de boire, je le précise.
Merci Bernard Breuze, Miguel Leclerc, Stéphane Olivier aussi tant qu'on y est. Alors on va écouter la troisième voix du collectif maintenant. Oui. Dans la troisième question, effectivement. Alors cette question, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin?
Alors je n'ai pas du tout envie de me lever le matin, mais vraiment pas et de moins en moins. Et ça n'a rien à voir avec...
Et ce matin non plus pour venir à l'RTB?
Ça a été difficile. Ça a été difficile, comme tous les matins. Il se fait que je suis un ancien insomniaque et un grand insomniaque. Et mon plan de vie avait toujours été de me dire, mais je serai insomniaque toute ma vie jusqu'à la fin. Et donc, dormir sera toujours pour moi quelque chose de difficile. Et il se fait que, sans que j'en comprenne vraiment la raison, depuis 4-5 ans, je ne suis plus insomniaque et d'une certaine manière, je tombe dans le travers opposé. C'est-à-dire, d'abord, je dors beaucoup, j'ai besoin de beaucoup dormir et surtout, je dors partout. Dès que je monte dans une voiture, je m'endors. Dans le tram, je m'endors.
Allez fermer les yeux, là, dans quelques instants.
Voilà, je pourrais presque m'endormir ici. Alors, curieusement, au théâtre, je ne m'endors pas. En travaillant, parfois, quand on fait des répétitions, je sombre un peu. Et les autres, j'entends, ils rigolent ou parce que je me mets à ronfler. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un changement inattendu et que j'ai pas du tout vu venir de ma personnalité, qui est j'étais un insomniaque et je commence à devenir une sorte de marmotte. Et je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Simplement, c'est très différent. C'est très, très différent de s'endormir très facilement que de ne pas s'endormir, d'avoir vraiment beaucoup de mal à s'endormir. Je pense que ça fait maintenant 4-5 ans que je n'ai plus passé une nuit blanche, alors que dans le temps, c'était au moins une par mois, voire deux ou trois, sans aucune difficulté. Et là, maintenant...
Vous vieillissez, Stéphane Olivier.
C'est possible que ça soit juste ça, mais alors c'est pas désagréable. C'est plutôt pas mal.
Mais c'était très productif. Oui. Moi, je me rappelle, on recevait des documents le matin en disant waouh. Mais ça, c'était l'insomnie formidable. On disait quelle chance on a d'avoir un insomniaque. Il bosse au moins.
Je perds toute utilité dans la compagnie depuis que je dors, parce qu'avant j'avais une force de travail que maintenant je n'ai plus du tout.
Allez, on va vous remplacer. C'était le premier choix musical de notre collectif transquinquennal invité aujourd'hui dans le Grand Charivari. On ne va pas dire quels sont ceux qui ont choisi, hein, puisqu'on est dans le collectif. Autobahn, Señor Coconut y su conjunto. Une ambiance un peu exotique, chic, exotique, un peu kitsch aussi. Miguel Leclerc.
Oui, c'est une combinaison un peu improbable d'avoir l'univers dont on se souvient bien. En tout cas, nous, c'était ça, bercé notre jeunesse, les Kraftwerk.
Autobahn, oui.
Autobahn et cette espèce de musique qui se voulait aussi désincarnée que possible, machiniste et tout. Et puis de la faire interpréter par ce qui semble être l'opposé complet, le combo sud-américain. Et en fait, ça marche très bien. Je pense que Señor Coconut lui-même et son groupe s'appelle Baile Alemán, donc la danse allemande. Je pense, si je me souviens bien, que c'est un émigré allemand au Chili et qui a eu cette idée extrêmement bizarre. Je pense qu'on aime bien ce genre d'association improbable entre le vivant et la machine, entre le nord et le sud, entre les...
Oui, moi, dans les choix qu'on a fait, chacun... On s'est retrouvé, je pense, chacun. Enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvé dans les choix des deux autres. Et entre autres, là, je pense que c'est vraiment très, très proche de notre pratique. Parce qu'en fait, on est des interprètes avant tout. Et donc, même quand on crée un spectacle, même quand on est à l'écriture d'un spectacle, on se positionne, je pense, comme interprète et comme profitant de quelque chose qui est déjà là, sur lequel on met notre point de vue, notre regard, notre distance. Et on fait aussi notre commentaire. Et là, ce qui se passe avec cette version d'Autobahn, c'est que c'est quand même un peu un commentaire qui dit « Mais vous pensez que Kraftwerk, c'est froid ?» Mais en fait, non, c'est pas froid. Et ça, je pense qu'on est assez en accord avec ce genre d'idées.
Transquinquennal, 25e anniversaire. On va évidemment parler surtout du présent et du futur, mais un 25e anniversaire, ça autorise tout de même à revenir un petit peu aux sources. Bernard Breuze... 1989, année révolutionnaire, avec Pierre Sartenard, vous êtes tous les deux issus du Conservatoire de Bruxelles, et puis il y a cette aventure de transquinquennal, c'était quoi l'idée à l'époque? Il y avait pas mal de rébellions là-dedans.
Oui, puis c'est une rébellion normale, j'ai envie de dire, si on n'est pas jeune et rebelle, je ne sais pas ce qu'on peut avoir, alors c'est le problème, je ne sais plus qui disait que nos sociétés occidentales, il n'y aurait pas de révolution, puisqu'on fait une analyse sociologique de la population et ça dépend de l'âge de la jeunesse et du pourcentage de la jeunesse. Et chez nous, à partir d'un certain seuil critique, on peut expliquer que tout d'un coup, il y a une révolution parce que les jeunes n'ont rien à perdre, les vieux, tout. J'en suis un, donc je peux en parler au plus de choses. On a tous des crédits, des voitures, et donc envisager le changement radical est beaucoup plus compliqué, je pense. Mais c'est né sans doute d'un manque, et quand on dit collectif, c'est aussi un gros mot, d'une certaine manière, c'est devenu bizarre. Il y a que, peut-être dans le théâtre, on se dit, mais ils sont archaïques ou ringards, d'employer ça. Peut-être qu'on parle de... J'ai entendu tout à l'heure à la radio, il parlait d'un collectif de rappeurs, ça m'a fait plaisir. Et donc c'était l'idée qu'on pouvait travailler autrement, en fait. Et d'une certaine manière, dans les pratiques artistiques, on est aussi très influencé par le monde du travail normal. Et par exemple, l'idée que le toyotisme ou le taylorisme soient intervenus à un moment dans la pratique de l'entreprise, et ben aussi dans le théâtre. Et d'une certaine manière, la manière de faire... C'est l'endroit le plus, j'ai envie de dire, le plus néolibéral qu'il existe. Parce que l'acteur, par exemple, pour parler de lui, est le plus, il est le plus réactif en termes de travail. Si on lui dit de venir travailler le dimanche, il viendra. Si on lui dit de travailler jusque 3 heures du matin, il viendra. Si on lui dit, et c'est devenu une sorte de gimmick, si sa mère est morte, eh ben, il va quand même jouer le soir. Bon, s'il meurt, lui, il ne jouera pas le soir. Ça, c'est toujours rassurant, évidemment. Mais... Et donc voilà, il y avait une sorte de manque dans la manière dont on faisait les choses. Et quand Miguel tout à l'heure a parlé des Flamands, bah, on peut dire qu'eux, ils avaient quand même un peu réfléchi au problème. Nous, du côté francophone, et ce n'est pas pour nous jeter la pierre, mais quand même un peu, c'est qu'on était quand même très influencés. L'idée que la Wallonie, Bruxelles, tous les francophones, on est quand même une province de Paris, et que c'est là que ça se passait, continuait à exister, était très présente à ce moment-là. Les Flamands, évidemment, pour des raisons qu'on peut comprendre, se sont dit « mais nous, ça ne nous intéresse pas ». C'est pour ça qu'ils ont investi les scènes françaises, parce qu'ils ont décidé d'inventer quelque chose au niveau de la forme des spectacles, mais aussi au niveau de la manière dont ça pouvait fonctionner. Et donc, d'une certaine manière, ils ont décidé de foutre le chef dehors. Et pourquoi pas si, chez nous, et je me dis, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais nous, finalement, on a travaillé pendant un an, le gouvernement, il n'y avait plus de gouvernement en Belgique. Et or, tous les chiffres économiques étaient au beau fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décision qui se prenait. Donc, il n'y avait pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef de la majorité et premier ministre qui était. Enfin, ils étaient encore en fonction, mais ils ne le revendiquaient plus. Ils n'avaient plus ce rôle de leader. Et ben, ça marchait. Et donc, d'une certaine manière, on a fait la même chose. Nous, on a décidé qu'on allait tout mettre à plat et qu'on allait essayer de reconsidérer les choses du côté du fonctionnement et que ça aurait un impact sur le résultat, plutôt que de prendre la façon de partir du résultat pour dire eh ben, on va en déduire un mode de fonctionnement. Nous, on a essayé d'appliquer la manière inverse de fonctionner. Et c'est vraiment, et là, je dois dire, on a tout piqué aux Flamands, quoi. Ça, c'est clair. Mais c'est les transferts nord-sud, hein, ça continue, ça n'arrête pas.
Et maintenant, il y a un vrai Wallon qui vient d'entrer dans le studio, c'est Paul Hermand.
Et
je crois qu'il y a quelque chose à vous dire.
Cher Bernard Bruce, Miguel Declercq et Stéphane Olivier, donc transquinquennal à 25 ans, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que déjà cette phrase a comme une coquetterie dans l'œil. Transquinquennal, 25 ans, vous seriez donc 5 fois quinquennaux, si j'ose dire, et quinca aussi tant qu'à faire. On va faire plus simple. Disons que vous terminez donc votre 5e plan quinquennal, et nous rappellerons ici aux auteurs distraits que le premier d'entre eux commença donc, on l'a rappelé, en 1989 avec Pierre Sartenard, pour rappel que nous avons reçu d'ailleurs en début de saison et que ce premier plan donc fut lancé au moment précis où s'effondrait à Berlin le souvenir du processus général de planification économique bien connu dans l'ancienne Union soviétique. Et pour votre information, mais bien entendu que vous le savez, il y a eu au total 12 plans quinquennaux de l'autre côté du rideau de fer. Le 13e et dernier s'éteignit dans l'œuf. Après, comme vous savez, l'économie a fait son marché. Et c'est ce que nous connaissons maintenant, des oligarques et Poutine statufiés en César, c'est l'Ukraine et les Tchétchènes, c'est des opposants et des journalistes encore plus refroidis que les plaines sibériennes que vous souhaitez. Alors, je vous le demande pour votre anniversaire, ou qui venait d'entamer, si j'ai bien compté, parce que quand même, 89-2015, c'est 25 ans fort bien sonné, vous venez d'entamer votre 6e plan. Oui, que vous souhaitez, hein. Car ainsi que vous le savez, et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer sur cette antenne lors de la célébration d'un autre jubilé, un anniversaire, ce sont des années qui tournent, anniversaire, vous voyez l'idée, hein, des années qui se renversent comme des coupes de champagne, et des choses donc qui reviennent. Qu'est-ce qui revient lors de ces 25 ans? Moi, je dirais, mais je suis dans la salle, hein, je parle de ma position de spectateur, je dirais donc de mon siège, je crie, je proclame une sorte d'immense jubilation devant une intelligence jubilatoire. Le mot intelligence a ceci de particulier qu'il ne nomme pas que cette faculté que nous avons de comprendre les choses, mais aussi d'être compris par elle, d'être compris en elle-même. Nous pouvons donc, avec vous, vivre intelligemment, bonne intelligence. On a beau être dans la salle, on est toujours dans la pièce, même s'il est vrai, vous nous en faites sortir de temps en temps. Nous ne voulons pas prendre le spectateur pour un imbécile, nous n'avons rien à lui apprendre, dites-vous quelque part. Mais alors aussi, comment ne pas être en connivence avec la manière que vous avez de vous emparer du présent en polissant en un mot votre matériau avec les choses et avec les gens? Comment vous le travaillez, hein, c'est aujourd'hui. Vous me feriez presque croire que oui, décidément, on peut vraiment être contemporain de sa propre histoire. Et que cette propre histoire-là est aussi celle d'une vraie radicalité qui n'exclut à aucun moment d'être précisément avec les choses et avec les gens, pas en amont, pas en aval, mais avec. Comme quoi, vous avez raison, les spectateurs ne sont pas des imbéciles, ce sont les imbéciles qui sont spectateurs. Aussi, tandis que vous entamez votre 6e plan, je pense que je peux augurer que votre planification théâtrale ne se dissoudra pas dans l'économie de la culture et que vous risquez fort peu, cher Bernard Breuse, Miguel Declercq et Stéphane Olivier, qu'un jour on édifie une statue à votre troïka. Je vous souhaite le bonjour et bien sûr un bon anniversaire collectif.
Merci.
Un commentaire.
Mais la statue, c'est quand même un peu dommage parce que. Mais moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une statue équestre parce que je ne suis pas un grand amateur d'animaux. mais en même temps, une statue équestre.
Comme Léopold
quand j'étais,
Léopold,
non, comme Godefroy de Bouillon, parce que quand j'étais petit, ma grand-mère m'emmenait toujours voir la statue de Godefroy de Bouillon. Elle disait pique-pendre sur ce personnage, mais en même temps, il m'était assez sympathique. Je me disais, oui, il est parti sur son cheval, et c'est quand même une chouette statue.
Et t'as la belle barbe maintenant.
Oui, en plus.
En fait, on voit plus le cheval que le personnage qui est assis dessus.
Oui, mais ça pose un homme quand même. Je trouve que là, Poutine a été un peu. Il a un peu vu son ambition à la baisse. Je pense que son groupe de com, à mon avis, a dû le mettre en garde que la statue équestre, c'était peut-être un peu tôt.
Oui, il a voulu faire grand et investir plutôt dans les pistes de saut à ski de Sochi. Et bon, voilà.
Oui, à ski, la statue à ski, c'est pas mal non plus.
La statue à ski, on dirait un mot russe. Mais oui, les Russes, c'est quelque chose. Je ne sais pas, oui. En fait, en 89, c'est ça qui est paradoxal, c'est que personne... naïve de l'histoire qui se passe au moment où elle se passe. C'est toujours avec le recul qu'on peut dire, tiens, c'est ça qui s'est passé. Mmh. Et personne, à part Irène Carrère d'Encausse, je pense, qui avait sorti un livre qui s'appelait « Quand l'Empire s'écroulera ou éclatera », à cause des raisons de nationalité, pas du tout des problèmes économiques, alors que la situation économique était tellement bien camouflée qu'on ne pensait pas du tout que ce côté-là, que ça allait péter.
Mais en même temps, on est vraiment le fruit de ça. Notre questionnement est quand même toujours après la chute du mur de Berlin et après la fin de cet clivage du monde, du fait que le monde était coupé en deux. Il y a quand même, nous, on a été porteurs sur un plan à la fois politique mais aussi artistique de ces questions qui étaient « et maintenant ?» Dans quelle position on est, parce qu'on perd un point de repère. On perdait un point de repère de limite, de définition, et les choses ont dû commencer à... moi, je trouve qu'il y a un des changements, c'est qu'on est devenu dans... On est passé à un stade où tout se définit de manière plus bilatérale. Et c'est vraiment ça. Après, je me suis dit, ben oui, en effet, il y a eu le troisième homme a disparu. Alors qu'avant, on pouvait se situer plus ou moins d'un côté ou de l'autre, être critique des deux ou pas des deux, se dire que ça serait bien un mélange. Mais là, maintenant, c'est vraiment un clivage, vraiment une opposition bilatérale. Et je pense que c'est cette question-là qui a aussi habité notre travail en se disant, mais ça ne va pas. On ne peut pas résumer les relations à cette opposition, et en tout cas, on ne peut pas la traiter comme un problème à résoudre et pas comme une réalité qui va rester. Parce qu'il y a ça aussi. Je pense que dans notre travail, une des choses qu'on a appris, c'est que quand on est dans une situation sur un plan artistique, quand on est dans une situation avec quelqu'un qui est porteur du sens, que ça soit le metteur en scène, l'auteur, le dramaturge, ou même un groupe qui est porteur de sens, on arrive toujours à demander ou implique le travail implique que l'acteur s'approprie le sens qu'on lui impose d'une certaine manière. Et nous, tout notre travail a toujours été de se dire, mais non, en fait, ce qu'il faut arriver, c'est que le désaccord, on arrive à lui donner une forme théâtrale, que notre conflit, on arrive à lui à continuer à dire que ce conflit nous intéresse. Et quand la phrase que vous citiez tout à l'heure sur le transquinquennal déteste le théâtre, c'est pour ça qu'il en fait, c'est à la fois un constat, mais c'est aussi une prise de position. C'est, ça n'est pour nous intéressant de faire du théâtre que si on le déteste. C'est pas du tout un choix dans le sens, je déteste le théâtre comme je déteste les épinards, ce qui pourrait être une question de goût. C'est, détester le théâtre, ça se met dans la position d'essayer d'en faire du bon. Alors que si on l'aime, ben on ne remet rien en question, on ne se pose pas de questions. Et donc ça ne va pas.
musique composée par Baudouin de Jarre, un compositeur bien de chez nous, et pourtant ça résonne de manière très différente. Je veux dire, ça vient de loin, cette musique.
Oui, il travaille pour les instruments traditionnels coréens. Enfin, c'est une partie de sa pratique. Il écrit aussi des opéras. En fait, il a été l'élève de Henri Pousseur au Conservatoire de Liège avec plein d'autres. Et c'est une sorte de génération golden, des golden boys comme ça, qui sont incroyablement créatifs. Et Baudouin, entre autres, il fait aussi des orchestres d'un jour. Ça veut dire qu'il fait de la musique avec des gens qui ne savent pas jouer du tout et qui, à la fin de la journée, font un concert. C'est vraiment des résultats incroyables. Enfin, voilà. Et il se fait qu'on s'est croisés. On cherchait de la musique coréenne pour le spectacle 41. Et puis, voilà, on s'est croisés. Il m'a dit, ah, j'écris. Donc, finalement, on n'a pas pris cette musique-là parce qu'on cherchait quelque chose qui soit, d'une certaine manière, plus pop. Mais voilà, on continue à entretenir avec lui des relations, enfin, pour ma part, très, très bonnes. Et en plus, il nous a aidés sur un spectacle, enfin, une forme qu'on a fait, qui était d'écrire des chansons sur des textes de Savitskaya et qu'on a fait dans la rue.
Pour le festival Passaporta. Hein.
Voilà, qu'on a fait pour Passaporta et avant pour le festival Canal. Et donc, voilà, on collabore et lui, il est venu jouer de la trompette. Il n'est pas du trompettiste, il est violoniste à la base. Et il est venu jouer de la trompette au festival Passaporta. On s'est bien amusé. C'est vraiment un type incroyable.
Nos invités, je vous le rappelle, dans le Grand Charivari, les trois larrons de Transquinquennal. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses sur votre travail. On a notamment parlé du collectif. Alors, si je me replonge sur votre site, il y a une phrase évidemment qui frappe aussi, qui est importante quand on connaît bien vos spectacles. Nous créons des spectacles qui nous ressemblent, mais qui ne se ressemblent pas. Alors ça, c'est vraiment une de vos forces, et à chaque spectacle, de réinventer non seulement le thème, mais aussi les formes qui vont avec ce thème.
C'est une faiblesse, en fait. En termes de vente de spectacle, c'est une faiblesse, parce que tout d'un coup, le programmateur qui vient et qui dit « Tiens, mais vous avez fait ça la fois dernière », et puis il voit autre chose et il est déçu. Donc, c'est dommage. Ça serait tellement mieux de faire des follow-up sans arrêt à partir du premier succès. Ben, je pense que c'est justement, on est trop nous trois pour ne pas se laisser tranquille. Chaque fois que quelqu'un vient avec une autre idée, elle est tellement intéressante parce que ce n'est pas la sienne. Parce que finalement, mes idées, je les connais. Je veux dire, on se connaît soi-même, on s'ennuie peut-être un peu. Mais les autres, par contre, c'est toujours une source de découverte incroyable. Donc, les idées arrivent et on suit la logique. Je pense qu'il y a bien une chose qui nous caractérise, c'est qu'on essaie d'être logique avec nous-mêmes et avec les idées qu'on essaie de les mener à bout. Et donc, voilà, même si elles nous dérangent dans le sens que productionnellement, arriver à faire des spectacles, enfin, faire des spectacles différents, comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours payant, mais on s'en fiche, on y va et on s'amuse bien aussi.
De toute façon, c'est un des fonctionnements du collectif, c'est que c'est très très difficile d'être complaisant avec soi-même quand on a un collectif. Ça, en fait, ce qui est un gros défaut, parce que ça demande évidemment beaucoup de travail d'être complètement, continuellement remis en question par les deux autres. Mais en même temps, ça a la conséquence qu'on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Il y en a toujours un qui ne dort pas. Et ça, c'est un immense avantage du collectif, mais ça a des conséquences sur la difficulté qu'on a.
C'est la notion d'inconfort.
Oui, la notion d'inconfort, le fait qu'on cherche une sensation d'inconfort, mais aussi la capacité qu'on a en même temps, à la fois de faire des spectacles différents et en même temps, quand on est après chaque spectacle, avoir l'impression qu'on fait tout le temps le même. Ouais. Et on est, voilà, les deux, Bernard et Miguel, quand je parlais, on opinait du bonnet, et ça se voit pas à la radio. Mais c'est pour nous très, très difficile parce qu'on essaye, nous, chaque fois d'aller chercher ailleurs. C'est vraiment notre pulsion. Et en même temps, on est toujours ramené par nos démons ou par notre pratique à se rendre compte que, oui, mais en fait, on s'est fait avoir par nous-mêmes. Et on a refait quelque chose qu'on avait déjà fait. Parfois, je pense, sans que le spectateur s'en rende absolument compte. Mais pour nous, c'est par moments assez difficile.
Ça me fait penser à l'idée de la formule que Paul Hermand avait tout à l'heure, d'être contemporain de nous-mêmes. Ça me faisait réfléchir, c'est qu'en fait on gagne du temps en étant comme ça à trois et toujours confrontés les uns aux autres. C'est qu'une évolution artistique plus ou moins solitaire fait qu'il faut qu'il y ait du temps qui passe pour qu'on se rende compte de ce qu'on a fait. Ici, c'est quasiment simultané. Mmh. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles on essaye ou que notre pulsion principale, c'est qui reste un vœu pieux bien souvent. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, qui est désolant pour nous, c'est qu'on a l'impression de faire tout le temps la même chose, mais qu'en même temps, on cherche à être chaque fois le plus différent différent dans ce qu'on essaie de...
Pas être différent pour être différent, mais être différent pour ressentir autre chose. Comme c'était dit dans le dernier spectacle, We Want More, il n'est pas possible de communiquer une expérience, il faut la vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de notre pratique, parce que c'est aussi quelque chose qui, pour nous, est une critique du théâtre. C'est que la chose fondamentale, c'est d'arriver à faire vivre l'expérience à tous les gens qui sont présents dans la salle. Ça, c'est l'objectif. Et cette question de se placer du point de vue de l'expérience, de vivre quelque chose, ça nous oblige à faire énormément de travail et de concessions et de penser à de quoi on peut parler, comment on en parle. Si ça doit être une expérience, eh bien, il y a quelque chose qui doit être, ça ne peut pas être une répétition. Les gens doivent être une expérience, il y a nécessairement un critère de nouveauté. On n'expérimente pas plusieurs fois la même chose. Pour être toujours dans la tension de l'expérience, il faut qu'il y ait quelque chose d'inconnu. Et voilà, donc ça nous oblige à essayer de chercher un angle de présentation différent des choses.
Vous parlez du spectateur, ça c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, c'est que le spectateur, la relation au spectateur est au centre de votre travail et l'inconfort que vous vivez, le spectateur le vit lui aussi.
Pas toujours.
Dernièrement, c'est vrai.
Tu parlais qu'on ne se répète jamais.
Si on parle de We Want More, par exemple. Alors le spectateur était mis à rude épreuve.
Mais ça nous semblait impossible de faire un spectacle sur la guerre où les gens sortent en se sentant bien. Ça nous semblait contradictoire.
Mais d'ailleurs, il y en a qui sont sortis avant la fin.
Oui,
mais
bien sûr.
À la limite, je me dis que ça ne vous a pas étonné. Vous cherchiez peut-être ça aussi. Vous étiez étonné qu'il y ait autant de gens qui restent dans
Absolument.
La salle.
On avait tenu compte. On s'était dit que ça allait arriver vu ce qu'on présentait. Mais en effet, comme dit Stéphane, ça nous semblait impossible que les gens soient à l'aise en voyant un spectacle sur la guerre. Enfin, voilà, c'était notre point de vue. Maintenant, pour revenir sur la façon dont on éprouve les spectacles qu'on fait, je pense que c'est un peu comme la sensation de déjà-vu. En fait, il semblerait que ce n'est pas des événements déjà vécus, mais plutôt une sorte d'opération chimique dans la tête qui fait qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu la situation. Je pense que nous, on a sans arrêt des déjà-vus. Mais qu'en fait, non, la réalité, c'est qu'on ne voit pas le chemin qu'on a parcouru. C'est tant mieux. Parce que si on commence à se retourner en disant « Ah oui, bah oui, 25 ans, etc. » En fait, on s'en fiche complètement, quoi. Vous allez me dire que les Rolling Stones, c'est la même chose, et puis qu'à un moment, ils n'arriveront plus à jouer correctement un accord de demi dans le bas du manche, et sans doute. Mais n'empêche que, voilà, après, on n'est pas les Stones, hein, et tant mieux.
Ça dépend à quel moment de la journée.
Mais voilà, les gens sont partis.
Les gens sont partis, mais c'est très différent de que des gens partent pour une raison qu'on comprend, ou bien que les gens partent à notre corps défendant. Et là, l'idée n'était pas que les... On n'avait pas de souhait que les gens partent. Mais ce qui nous semble toujours important, c'est de ne pas considérer le public comme un groupe, comme un troupeau. On essaye de casser l'idée que le public, c'est une seule chose. Non, c'est des individus qui sont au même endroit, au même moment et plus ou moins dans la même position. Mais c'est chacun des individus et chaque individu a son libre arbitre. Et parfois, il y a dans les formes d'art un peu collectives, comme le cinéma ou comme le théâtre ou le cirque ou la danse, on est un peu contaminé par une idée ou une volonté de la part productionnelle qui voudrait que on arrive à contrôler le groupe, à arriver à faire de ces spectateurs qui sont tous des individus un grand groupe qui fonctionne toujours de la même façon et qu'on va faire réagir de la même façon aux mêmes choses. Mais c'est terrible de se dire ça.
Comme le marketing, la pyramide de Maslow.
Non, mais c'est terrible parce que ça veut dire qu'au lieu de faire du spectacle pour tous... On fait exactement l'inverse. On fait des spectacles pour le plus petit dénominateur commun. Donc c'est tout à fait l'inverse. Faire du spectacle pour tous, c'est faire un spectacle pour chacun. Et pas un spectacle pour ce qui nous est commun à tous. C'est pas du tout la même chose. Et on se trompe complètement en voulant faire... Moi, je pense que le productionnel est dans une erreur de jugement de se dire « il faut que ça plaise à tout le monde ». Mais non! Si ça plaît à tout le monde, ça veut dire que ça ne déplaît à personne. Ça veut dire qu'en fait, même l'idée que ça plaise est galvaudé là-dedans. Si ça plaît à tout le monde, le mot plaire perd tout son sens. C'est comme si on était, je veux dire, c'est pas un homme politique ou n'importe qui, c'est comme si on était attiré par tout le temps. Mais non, le désir, le plaisir, la colère, la haine, c'est quelque chose d'individuel. Et si on n'accepte pas que c'est ça qu'on met en jeu dans une production artistique, et si on n'est pas tous d'accord là-dessus, ben on passe à côté de la culture. On fait quelque chose qui est de l'ordre du folklore, et même encore, je suis même pas sûr que c'est une bonne définition
du folklore. Des lettres, j'aime à penser que théâtre, ça vient de théatron, qui est grec, c'est-à-dire l'endroit d'où on regarde. Et comme chaque spectateur voit d'un autre endroit, en fait, c'est pas le même angle. Et en effet, c'est de la 3D naturelle. Donc il voit autre chose que son voisin, même un petit peu, mais il voit autre chose.
Oui, et puis je pense que chaque spectateur n'a absolument aucune envie d'être assimilé au groupe de tous les gens qu'il ne connaît pas, qui sont autour de lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu le théâtre. C'est une expérience qui est absolument individuelle au milieu de plein d'autres gens. Mais voilà.
Paré comme ça, en Arabie. Paré comme ça, paré comme ça. Paré comme ça, en Arabie. Des milliers tapis, non, non. Paré comme ça, en Arabie. Paré comme ça, paré comme ça. Paré comme ça, ça vous dira. Des milliers tapis, non, non.
Paré du Longalibaba. T'es perdu, de plus fort et de bon. Bon.
Paré comme par en Arabie. Paré comme par là, par les dents. Paré comme par en Arabie. Des billets tapis volants.
Vous pouvez pour la bonne heure permettre des bons pour partir par Paris. Prenons plutôt le tapis volant.
Montons donc à bord et voyons donc où l'aventure la moula nous portera. Pour être prétendre à terre en bas, très près d'y aller, on n'en doute pas. Pourtant, on est prêt, des pâtes et tout, pactat, y'a pas, pour y'a pas, pour y'a pas, pour y'a pas. Pour être pas, trouver tous les pots d'Alibaba, tout pour édorer l'eau, pour ébrader, autour devant le tout Paris. La des bédouins, des tas de doigts, la des bédouins, voilà des tas, en montant le pas. Pour guider nos pas. Partout dans le bled, et voilà pourquoi partout il y a des poteaux rapido quand on prend les pattes. Pour rien à faire, y'a plus rien là, partons dans plus loin. Tant d'abord, de porter dans nos papas au Kmera. Pour nous, y'a plus, quel beau coup de main qu'à dérober la lampe d'Aladin. Tant qu'on pourra, tantôt, partout, trouver le palais d'Aladin.
Partons par mes deux bagas.
Débutons dans Parabatré, on trouvera.
Même perdu, pas plus de palais que de monde.
Prétendez-vous qu'on perd tout notre temps.
Tiens, baba, t'as parti à mon bateau.
Partez pour tout voir en Arabie. Tout apparaîtra. Par-delà le temps, j'ai pas tort. Tant qu'on ne pourra pas vouloir abandonner nos pauvres peaux datées, faut pas tenter de trouver la porte d'entrée d'un bonheur d'antan. Moralité, c'est du flan.
Le groupe vocal Double 6, c'est encore un choix de nos invités d'aujourd'hui. Le collectif Transquinquennal, c'était donc Night in Tunisia. Un petit commentaire sur cette musique?
Moi, je trouve que on ne les entend plus, mais je trouve que c'est quand même un projet artistique absolument insensé, qui est de se dire on va chanter des tubes de jazz, des standards de jazz, mais pour arriver à les chanter en français, au lieu de faire bidou bidou ba, eh bien on va écrire des paroles. Et en fait, les paroles sont d'abord souvent très très drôles, et parfois très très bonnes aussi. Et moi, je suis un plaisir à écouter ça, mais c'est assez kitsch, il faut bien le dire.
Mais les arrangements sont très subtils, il me
semble. Oui, tout à fait.
Bien, je crois qu'il est temps d'aborder le présent. Ouais, ça, on l'a déjà fait pas mal, mais le futur aussi, ce cadeau d'anniversaire. Alors là, une nouvelle fois, vous mettez le spectateur à la torture parce que vous l'obligez à choisir.
Non, en fait, on ne met pas à la torture. Les textes existent. Donc, il peut même, le spectateur, vicieux évidemment, pourra même aller voir, que les lire d'abord, s'il en a envie. Alors que d'habitude, on part parfois d'un endroit où il n'y a même pas de texte. Tandis qu'ici, on sait, on a juste un titre ou un thème. Ou... Voilà. Tandis qu'ici, il y a des textes qui existent, ils sont annoncés.
Il y en a 7.
Il y en a 7.
Mais on peut en prendre connaissance et on peut voter.
Voilà.
Alors, il y a tout un agenda qui est organisé. Donc, on peut déjà voter jusqu'à quand?
On peut voter jusqu'au début novembre.
Jusqu'au
voilà.
16 novembre.
Le vote est
obligatoire en Belgique.
Oui. Ouais. Le vote est possible depuis à peu près 2 semaines. Et donc, il y a plusieurs moyens de voter. Enfin, il y a 2 moyens de voter. Soit on vote au Théâtre de Liège, puisque c'est le Théâtre de Liège qui nous aide et qui nous accompagne dans ce projet et qui le coproduit avec nous de manière assez formidable. Et donc, d'une part, il y a moyen de voter sur place au Théâtre de Liège sur papier, et d'autre part, par Internet, on peut voter de son côté. Et donc, chacun peut voter une fois. Et puis, voilà.
Donc, tout ça est réalisé très sérieusement.
Absolument.
Vous contrôlez.
Voilà. Normalement, il y aura un huissier de justice qui viendra dépouiller et qui entérinera les votes.
C'est vrai qu'ils dépouillent en général les justices. Non, mais bon, non, mais leur faute. Hein.
On peut aussi rameuter sa famille, ses amis.
On peut tricher un peu quand même. Ouais.
Ouais. On peut, chacun peut tricher de son côté, mais en même temps, si tout le monde triche, ça va rééquilibrer les choses.
Et puis l'idée, c'est que les gens disent, on n'a pas le choix, on nous impose des... Voilà, là, non, c'est pas vrai, les gens peuvent choisir. Alors en effet, c'est dans un certain nombre de pièces. On ne peut pas leur donner tout le répertoire, parce que ça ne serait pas possible à faire, mais sinon, c'est l'idée qu'on va quand même être surpris. Comment se surprendre soi-même d'une chose qu'on sait? Mais c'est un peu ça. Finalement, on sait bien que notre anniversaire, il arrive chaque année à la même date. Et on sait bien que les gens qu'on aime, ils vont nous faire des cadeaux ou nous envoyer des petits mots. Mais on fait semblant qu'on ne pense pas. Moi, ça, j'adore ça. Je fais semblant que ma mère ne va pas m'appeler alors que je sais très bien qu'elle va m'appeler. D'ailleurs, peut-être que quand elle ne m'appellera plus, je sais ce que ça voudra dire. Mais voilà, donc on essaie de se mettre dans cette position-là, honnête et naïve, j'ai envie de dire, à la fois fausse et vraie, mais humaine. Par rapport à cette opération-là, en disant en plus il va se passer avec le spectateur quelque chose parce qu'il aura du plaisir à faire ça.
Bien sûr, c'est comme un jeu. Donc clôture des votes le 16 novembre, début des répétitions le 30 du même mois, et puis la première le 17 janvier au Théâtre de Liège. On va quand même donner les titres de cette pièce parce que je trouve que c'est intéressant, parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs auteurs américains d'ailleurs. Tout d'abord Thornton Wilder avec Notre Petite Ville. Et puis Volpone, mais revue par Stefan Zweig, qui s'inspire de la pièce élisabéthaine de Ben Jonson. Il y a aussi cet auteur argentin que vous nous avez fait découvrir il n'y a pas si longtemps avec cette pièce, La Estupidez, qui faisait partie d'ailleurs d'un ensemble des 7 péchés capitaux. Alors ici, on a La Modestie, c'est le titre de la pièce que vous avez choisie. Il y a Amphitryon de notre cher Michel Fabien, qui s'inspire de Kleist. Moby Dick, mais dans la version que Orson Welles a proposée à ses comédiens en répétition. Il y a aussi 7 pipes, là c'est un autre auteur américain, Mac Wellman. Et puis enfin un auteur russe contemporain, très peu connu chez nous, il s'appelle Constantin Kostienko, le titre de la pièce, Diagnostic Happy Birthday. Alors apparemment ça part dans tous les sens, mais il y a quand même quelques liens entre ces pièces.
Ah oui, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on essaye de trouver des pièces qui étaient ce qu'on dit en jargon, jouantes. C'est-à-dire où il y allait avoir des interactions entre les comédiens qui seraient sur le plateau. Et donc, on a exclu les pièces qui étaient trop monologuées, qui étaient trop... où il n'y avait pas de situation de jeu, où le jeu était un peu absent, parce qu'on avait envie de se dire, un cadeau, c'est aussi ça, c'est aussi que nous, on se fasse plaisir, et qu'en se faisant plaisir, on fasse plaisir aux spectateurs. Donc ça, c'est un premier choix. Puis on a essayé de choisir des pièces. Une des choses qui est importante, c'est de faire une sélection équilibrée, enfin, qu'on espère équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoris, où on a essayé de minimiser la possibilité d'un favori. Donc ça a été un autre travail qui a fait que c'est des pièces qui ne sont pas inconnues, mais qui ne sont pas non plus des stars du répertoire. Donc voilà, ça c'est les deux. Je dirais. Et puis après, il y avait des critères de production. On ne pouvait pas dépasser un certain nombre de personnes et pas aller en dessous d'un certain nombre de personnes. C'est quand même sur le grand plateau du Théâtre de Liège, qui est quand même une grande salle. Et l'idée, c'est de profiter de la grande salle, donc de en profiter aussi pour pouvoir monter quelque chose avec du monde sur scène. Mais en même temps, on a mis une pièce avec pas de monde pour qu'il y ait un risque. Donc voilà, c'est un petit arrangement. C'est un peu une recette de cuisine. On essaye de faire un équilibrage. Et puis après, c'est le spectateur qui décide.
Il me semble qu'il y a souvent aussi dans ces pièces un jeu sur le réel et l'imaginaire, les apparences, oui. La vérité.
Absolument, oui.
Et puis aussi un jeu de palimpseste. Hein, Michel Fabien qui s'inspire de Kleist, qui s'inspire lui-même de Plaut, etc. Mais ça vous a peut-être échappé au moment où vous choisissiez.
Bah, c'est des choses qu'on aime bien d'habitude.
Ben
voilà.
Donc ça revient spontanément.
Oui, ça vient. Mais Moby Dick, il y a aussi des choses simplement qui traînaient. Par exemple, Moby Dick, la pièce d'Orson Welles, c'est une pièce qu'on traîne depuis quelques années et que voilà, on s'est jamais vraiment lancé. Puis on s'est dit, ah, ben, c'est l'occasion de la proposer. La Modestie, c'est une pièce de Raphaël que Miguel a traduite. Donc c'était un peu dommage de pas en profiter du travail qu'il avait fait. C'est une bonne pièce, en plus, comme toutes les pièces de Raphaël. Voilà, et donc tout ça est venu un peu naturellement. C'est pas comme si on ne lisait pas du théâtre quotidiennement.
Ah bon?
Non, ça nous prend, on a des crises pendant deux mois de l'année, ouais. On ne fait plus que ça.
C'est la révélation de l'émission, ça.
Non, mais c'est vrai.
Le reste du temps, on en fait.
Non, mais...
Alors, une question de journaliste. Vous allez être fidèle au texte des pièces ou bien vous allez un petit peu accommoder ça à votre sauce?
J'adore ça. C'est comme demander à un homme s'il est fidèle à sa femme toujours, tout le temps, y compris en pensée, en acte. C'est du même ordre,
oui.
Quoi. En fait, l'idée, c'est évidemment oui. Et puis, les faits montrent que, en fait, ça a l'air un peu plus complexe que ça.
Sur le plateau, c'est différent.
Que sur le plateau, ça sera différent. Mais pour revenir sur une des choses, en fait, ce qui est amusant, c'est que même si on prend un texte comme Volpone, d'ailleurs, j'ai dit à ma fille, on va jouer peut-être une pièce qui s'appelle Volpone. Elle m'a dit, c'est avec des poneys. J'ai dit non. Et c'est une.
En même temps, c'est une façon de monter Volpone.
Mais oui, c'est des animaux. Non,
en fait, ces pièces, elles sont réécrites sans arrêt s'il y a des traductions. Et l'idée qu'en effet, c'est Zweig qui l'a traduit, mais lui-même l'a écrit en allemand, si je me trompe. Enfin, en tout cas, oui. Donc, de toute façon, il y a une traduction. Donc, ça veut dire que c'est la langue de maintenant qui va la prendre en charge. Et donc, d'une certaine manière, ça repasse une couche. Il reste quelque chose, mais ça repasse une couche. Donc, il y a un côté comme ça, et je fais le lien avec la fidélité sur le texte. Ça ne veut rien dire. Je me rappelle de Serrault qui répondait à une interview parce qu'il jouait l'avare et on disait, vous remettez des mots en plus. Il disait, et alors, quoi? Quoi? Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas du sacré. L'idée, c'est pas une messe, le théâtre.
Une messe, et même. Le curé a son lazi.
Mais il a son lazi à un moment. Mais normalement, son texte est écrit. En effet, chaque mot a été pesé, sous-pesé. On comprend pourquoi. Parce que ça entraîne le paradis ou l'enfer, sans doute, derrière. Mais nous, on n'en est pas là, franchement. Donc, en fait, on va se laisser toute latitude. Et si, par exemple, Ben Johnson veut venir rouspéter, bah, il peut. Mmh. Franchement, on tiendra compte de toutes ses remarques.
Stéphane aussi.
Voilà. Mmh. Et donc, on connaît bien Raphaël Sprigelbürd. Il ne parle pas français, donc on n'a aucun problème. Le russe ne parle pas. Voilà. Mais c'est une pirouette pour dire qu'on va voir. L'idée, c'est que ça soit vivant. Donc, c'est quoi rendre la chose vivante? Je déteste l'expression dépoussiérer un texte. Ça veut dire quoi? Il était poussiéreux, alors? Alors pourquoi le prendre? Ou alors il continue à nous parler à travers... Mais non, c'est pas vrai. C'est aussi des sortes de clichés dans lesquels on n'a pas envie de tomber. Peut-être c'est ça qu'on a envie de faire. C'est essayer de ne pas tomber dans les clichés tout en sachant qu'on va le faire. Et comment essayer d'y échapper à trois en disant « Mais attention, là, tu tombes dans le cliché. » Mais non, pas du tout. Enfin, voilà,
parce que c'est relativement récent, ça, dans votre travail, d'aller chercher un texte préexistant. Parce que la plupart du temps, ou bien c'est vous qui créez le texte, ou bien vous faites une demande à quelqu'un, Savitskaya, enfin Blatzmann, il y en a eu plusieurs.
Oui.
Je ne sais pas, c'est une...
C'est en même temps une pratique qu'on continue. Là, on va travailler avec Marie-Henri. Qui va écrire un texte pour nous, avec nous. Enfin, ça, la forme dépend de la collaboration. On est en train de discuter, et je pense que les choses vont bien tourner, de commander un texte à Raphaël pour nous. Donc, c'est toujours une pratique qu'on apprécie. Mais en même temps, on s'est rendu compte que si on restait dans ce mode de construction de texte, on était très paralysé par cette démarche-là, parce que, d'abord, ça nous empêchait d'attaquer certains pans du théâtre. Et puis aussi, ben, ça coûte plus cher, parce qu'il faut, payer l'auteur si on veut qu'il écrive une pièce. Et donc, parfois, c'est difficile, ça demande des engagements, les coproducteurs ne sont pas forcément d'accord. Enfin, voilà, et aussi, c'est une grosse inconnue. Or, quand même, il y a une chose qui se passe avec la crise, c'est que quand même, ce qui fait peur, c'est l'inconnu, encore plus, parce que l'inconnu, c'est encore un risque, ça a l'air d'être un risque encore plus grand qu'avant. Donc oui, je pense que le fait qu'on soit incité à travailler avec des textes qui existent déjà ou des auteurs qui sont un peu reconnus, c'est une évolution, mais c'est pas seulement une évolution de notre côté, c'est une évolution un peu générale où toutes les coproducteurs et les directeurs de théâtre cherchent un peu plus de sécurité. Et donc, si on veut continuer à faire des spectacles, il faut qu'on les écoute.
On a connu cette époque-là des metteurs en scène relecteurs, où c'était la lecture d'une pièce. Et pour nous, d'une certaine manière, on n'a jamais été là-dedans parce que ça correspondait aussi à ce qu'un dramaturge allemand appelle le théâtre karaoké. Ça veut dire que les gens vont voir des pièces qu'ils connaissent déjà. Et en effet, on va voir la relecture d'eux. Bon, ça a un intérêt, mais ça devient de la variation sur quelque chose.
Mais pour revenir aux pièces qu'on a choisies, je pense qu'une dimension aussi qui était importante, c'est que pour nous, le fait de choisir du répertoire, c'était donc personnellement une manière de réinterroger qu'est-ce que c'est ça, mais c'était aussi fonctionnellement le pas qu'on faisait vers le spectateur, de dire qu'est-ce que vous voudriez que nous montions, nous, Transquinquennale. Hein. Donc voilà, c'était le pas qu'on faisait vers eux. Et que c'était difficile de faire un autre pas que ça. Est-ce que vous voulez qu'on parle, je ne sais pas, de la fin dans le monde ou bien de voilà.
C'est plus rassurant peut-être pour le spectateur. C'est vrai qu'on dit théâtre contemporain, les gens partent en courant en général. Pas tout le monde, mais parce qu'on a l'impression que les gens vont être tout nus, vont crier fort et qu'ils vont... Enfin, c'est cette vision-là, il y a eu ça aussi. C'était pas ça. Le contemporain, c'est juste de maintenant. Donc, en effet, Tchekhov faisait du théâtre contemporain, Shakespeare faisait du théâtre contemporain.
Et puis, c'est aussi, alors ça, c'est pour essayer de tracer une ligne, c'est aussi le travail sur la commande. C'est un travail qu'on fait quand même depuis quelques années. On a travaillé sur la commande avec Ivo et Simona Ivo Provost et Simona De Nicolai, qui sont des artistes contemporains plasticiens. On a travaillé sur la commande avec Dora Garcia, qui est une artiste non objectale. Et on a travaillé sur la commande quand on a fait les Blind Dates. L'idée de la commande, pour nous, c'est à la fois une idée très ancienne dans l'art, puisque c'est vraiment Dirk Boots qui répond à la commande de l'évêché d'eux. Et c'est une place sociale de l'artiste qui nous intéresse. Le fait qu'on commande quelque chose à l'artiste, nous, socialement, par rapport à la société, ça nous semble une place assez juste, plutôt que l'artiste qui doit se placer à l'avant-garde, toujours, et qui doit être à l'avant. Nous, l'idée de la commande est de répondre à la commande. Voilà, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Anne-Cécile Van Dalem, c'est aussi des questions qu'elle se pose. Enfin, je pense que cette question de la commande est une façon artistique de réinterroger la place de l'artiste dans la société.
Eh bien, messieurs, je propose que ce soit le mot de la fin. Spectateurs, à vous donc de choisir le prochain spectacle du collectif Transquinquennale, donc qui sera créé à Liège en janvier prochain. Mais il nous reste une question à poser. Est-ce que vous avez une maxime à nous proposer ou bien c'est...
Moi, j'en
tout ce que vous
deux.
Ne voulez pas, justement.
Moi, j'en ai deux, et c'est deux barbus. C'est la maxime que j'ai empruntée à deux barbus. Le premier, c'est Karl Marx, dont la maxime était « De omnibus dubitantum », c'est-à-dire « Il faut douter de tout ». Et la deuxième maxime, c'est celle du capitaine Nemo, qui est écrite au-dessus de l'orque dans le Nautilus, qui est « mobilis in mobile », qui veut dire « mobile dans l'élément mobile ».
Moi, j'ai cette histoire, en effet, qui, en fait, est issue de l'ex-Union soviétique, que j'aime bien, celle de l'optimiste, enfin, du pessimiste qui rencontre l'optimiste, et le pessimiste dit « ça ne peut pas aller plus mal », et l'optimiste lui répond « mais si, mais si ».
Oui, moi, j'en ai deux. Plus on explique, moins on comprend. Les choses étaient tellement différentes avant que tout change. I do you reckon it right?
Le Grand Charivari, acte 2. Voici à présent l'actualité culturelle, toujours bien sûr, vue par nos chroniqueurs. Tout à l'heure, le regard d'Alexandre Weinberg sur le concours Reine-Élisabeth, ce sera une approche scientifique, bien sûr, des cordes du violon. Caroline Lamarche a relu pour nous un des plus beaux livres de Romain Gary, La promesse de l'aube. Et puis à l'instant, nous revenons bien sûr à ce fameux Kunsten Festival des Arts. Avec vous, Olivier Espel, parce que vous avez encore quelques rendez-vous importants à nous communiquer.
Oui, le Kunsten Festival des Arts, ben c'est, on l'avait dit il y a 2 semaines, fête ses 20 ans. Donc effectivement, il a invité quelques grandes pointures et quelques invités réguliers depuis 20 ans de son histoire. Et dans la semaine qui reste encore à ce festival, on aura notamment Milo Rau, Federico Leone, Boris Charmatz ou encore Jérôme Bell. Mais ce n'est pas de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais plutôt d'aller du côté des découvertes ou en tout cas des nouveaux venus dans la famille du Kunsten Festival des Arts.
Et ce sera de la danse essentiellement.
Et ce sera pas mal de danse, effectivement, oui. Je vais d'abord commencer par vous parler de Radwan Mrzyga, qui jusqu'à mardi prochain présente sa toute première création, un solo intitulé 55, qu'il présente au bâtiment Dynastie. Alors ce bâtiment Dynastie, c'est un espace régulièrement convoqué par le Kunsten, qui est une espèce de cube étrange, comme ça, imposant, placé à l'entrée du Mont des Arts, avec sa monumentale porte de bronze. Hein, voilà, vous voyez où ça se trouve, donc. Et cet écrin mystérieux est là pour accueillir une pièce tout en finesse, tout en simplicité. Et puis, j'ai donc rencontré Radwan Mrzyga dans le parc du Mont des Arts, au pied du bâtiment Dynastie, histoire qu'il en dise un peu plus sur les origines de ce premier projet aussi chorégraphique que plastique.
Le titre, ça vient de vraiment d'être le plus fonctionnel possible. C'était 55 minutes et tous les comptes et toute la composition de la pièce est sur le numéro 5. Parce que depuis l'école déjà et même avant, chaque fois je travaille sur un numéro. Seulement pour simplifier la construction de la pièce.
Comme contrainte de départ en fait, c'est
ouais,
ça?
Oui, surtout pour le rythme et pour, l'organisation de l'espace. Et ça j'utilise toujours avant, on a fait un collectif pour la fin des études, c'était sur 4. Et puis avant c'était sur 3 et puis avant c'était sur 2.
Ah oui, d'où le 5 aujourd'hui en fait
ouais,
alors. Ça fait partie de votre histoire en fait.
Ouais. Le 5, je savais que je vais faire tous les rythmes sur les 5. Dans la pièce, il savait que tous les objets ils seront en relation avec 5 et aussi le temps, ça va être en relation avec le 5. Et puis, j'ai commencé à travailler. J'avais pas d'argent pour faire une pièce. J'avais qu'un espace et moi. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire dans cet espace ? J'ai une formation de danseur, alors je peux danser, mais j'avais envie de faire quelque chose de plus aussi, de construire même quelque chose de plus. Et je trouvais toujours que l'architecture, c'est l'art le plus complet. Esthétiquement, c'est intéressant, mais aussi le concept, c'est intéressant, mais aussi tu laisses un trace.
Et ça sert à quelque chose.
Et ça sert à quelque chose. Et c'est ça un petit peu que j'ai senti avec la danse, comment je peux mettre la danse ou le mouvement en fonction de quelque chose de concret, même si c'est le mouvement est abstrait.
Et justement, ici, dans comment mettre le corps en fonction, effectivement, il est là pour créer un espace-temps, bon, ça, bien sûr. Il est là aussi pour nous dessiner quelque chose au sol, mais il sert aussi comme mesure pour dessiner cet objet au sol. Et justement, ce dessin-là, il vient d'où ?
J'ai pas pensé à la forme avant de la faire. Mais par contre, j'ai suivi tout ce qui est logique dans la construction et tout ce qui est le plus simple possible, sans utiliser des mesures externes que le corps. Et ça donne cette forme. Ça veut dire que c'est venu...
En faisant, en fait.
En faisant, ouais. C'est une signature de l'espace.
Et c'est toutes les heures qu'il fait ça ?
Toutes les 30 minutes.
Ouais. Ah, donc on va l'entendre pendant la
course. Mais ça va, ça dérange pas le travail. Pour moi, ça dérange pas parce que dans les morceaux de son que j'ai utilisés, j'ai pris 55 morceaux de musique. Il y a beaucoup de pop aussi, il y a aussi du traditionnel, et il y a aussi du classique, mais tout. Et j'ai pris seulement les petits bouts de 5 secondes, moins ou plus, qui ont cette qualité de très émotionnel. Bien, ça fait une liaison un petit peu nostalgique. Et là, avec cette sonorité, pour moi, c'est aussi très nostalgique. Ça veut dire que ça rentre aussi dans le
processus.
Le processus. Et je pense que... Il y a la forme que j'ai choisie, il y a le système, il y a tout, mais il y a toujours la nature et tout ce qui est autour de toi, les gens et tout. Et ils amènent toujours quelque chose de plus. Parce
que ça reste vivant, quoi,
ouais,
en fait.
Ça reste vivant. Et aussi, je trouve que quand tu travailles aussi sur quelque chose qui a une liaison avec la nature et le corps humain, tu peux pas faire la machine. Ouais, tu peux pas résister la nature autour de toi. Et ça, j'aime bien.
C'était donc le chorégraphe Radwan Mriziga qui propose un spectacle intitulé 55 au Kunsten Festival des Arts. Je crois que c'est un danseur d'origine tunisienne ou marocaine, mais qui vit à Bruxelles et qui a travaillé, qui a étudié à Partz notamment. On y revient toujours à Partz, l'école d'Anne-Thérèse Adkersmaeker.
Ben, disons que je ne sais pas si on y revient toujours, mais effectivement, dans cette dernière décennie, les pointures les plus... je dirais pas anachronique, mais en tout cas nouvelle, sortent pas mal de parts, avec parfois une tendance au concept. Il parle beaucoup de fonctionnel, et ça, c'est, je pense, effectivement une question assez forte. Donc le rapport formel à la danse ou au corps dans un espace. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans Part, c'est que non seulement il y a cette question formelle, mais en même temps aussi, il y a quand même une interrogation de ne pas flirter avec ce que je pourrais appeler le frigide. Donc on reste quand même, il y a une qualité du vivant. Et je trouve que le projet ici de Radwan Mriziga, je trouve qu'il... Voilà, combine bien à la fois les défauts et les qualités de cette formation. Bon, c'est un tout premier projet, donc c'est clair qu'on sent vraiment une forme d'empreinte, ou en tout cas une famille, très clairement une famille formelle. Mais cette délicatesse-là, cette sincérité-là, même plutôt, de sa présence, et puis ce qu'il dessine au sol, et ce qui se construit en fait au sol, il y a quelque chose là de très humain, et en même temps une forme un peu de méditation, si on veut, ou en tout cas d'appel à une forme de méditation et d'apparition de la beauté, en fait.
On parlait de Parts, Olivier Espel. Alors, vous allez nous faire une autre proposition, toujours dans le cadre du Kunsten Festival des Arts. Et c'est aussi une chorégraphe issue de Parts. Il s'agit de Louise Van Est.
Oui, alors c'est une chorégraphe issue de Parts, mais qui est sortie il y a 15 ans et pas il y a quelques années seulement. Et elle n'en est pas à son premier projet, mais par contre, c'est sa première invitation au Kunsten Festival des Arts. Alors, Gone in a Heartbeat, le titre de cette pièce, littéralement partie en un battement de cœur, qu'on traduirait moins poétiquement, mais plus clairement en français, par éphémère ou furtif. Et de fait, c'est l'insaisissable, non reproductible de la représentation que la chorégraphe et son équipe creusent ici en tentant de marier la construction, la composition scénique, chorégraphique et l'instinct, la liberté de ses interprètes. Un défi d'écriture, on peut vraiment le dire, que Louise Van Est explore en fait depuis quelques années déjà, en solo tout d'abord avec Home en 2010, en duo ensuite avec Black Milk en 2013 et maintenant en quatuor. Donc une difficulté supplémentaire, on va dire, puisque organiser à la fois une architecture globale et en même temps la liberté des interprètes à l'intérieur de cette architecture, c'est quand même un sacré défi. Alors seul, c'est peut-être un peu plus facile. À deux, il y a une petite complexité, mais à quatre, là, les géométries variables deviennent beaucoup plus complexes. Et justement, cette idée de géométrie variable au sein d'une équipe, d'un groupe, c'est une des questions qu'elle interroge ici, donc cette question du groupe, mais non pas dans ce qui rassemble ou dans ce qui irait dans l'unification ou l'uniformisation, mais bien dans la distance entre les corps ou dans ce qu'elle appelle la ressemblance-dissemblance.
Olivier, on aimerait peut-être quelques images concrètes de ce spectacle parce que tout ça semble un petit peu abstrait comme ça.
Oui, et puis image, c'est pas mal parce qu'effectivement, chez Louise Van Est, la question de l'espace ou de la plastique même de l'espace est super importante. Et alors ici, elle nous invite dans un carré noir, ou plutôt un rectangle noir sur fond noir, encadré de quatre gradins noirs. Voilà un peu pour l'espace, l'aire de jeu de ce Gone in a Heartbeat. Et au centre de cet espace à la plastique très forte, où l'air a une réelle texture, comme une espèce de brume, et où la lumière est presque immanente, en fait. Elle irradie presque des corps. Ces corps, justement, qui sont au centre de cet espace, quatre corps, quatre femmes. Hein, c'est aussi une grosse récurrente chez Louise Van Est. Il n'y a que des femmes sur le plateau et que des hommes, en fait, en coulisses. Bon, c'est une autre histoire de genre. Et puis le tout, parce que ça aussi, c'est une des particularités de la signature de Louise Van Est, c'est la membrane musicale dans laquelle cet espace-temps de corps nous est donné à voir. Une membrane musicale qui a ici tantôt basculé dans des pulsions résolument communicatives, un beat comme ça, presque techno à certains moments. Et puis des espaces musicaux qui sont beaucoup plus cosmiques, beaucoup plus dilatés. En fait, on a un univers très singulier, hyper dense, un peu exigeant, on va dire, d'une certaine manière, mais qui réussit, malgré cette forme d'exigence, à vous emporter dans des espaces-temps assez singuliers, ailleurs, on va dire, ou des ailleurs, il faudrait plutôt dire, parce qu'il y a à la fois des moments presque où on est en apnée, et d'autres moments, c'est plutôt de l'hyperventilation dont il s'agit. Il y a des moments où on voit les danseuses vraiment dans une concentration extrême, un truc très intérieur. Et puis d'autres où elle se lâche dans des espaces un peu plus délurés. Un objet vraiment singulier. Et tout à l'heure, je vous parlais de Parts qui avait cette singularité ou particularité ou tic de travailler le formel de la danse. Ici, il y a vraiment effectivement cet enjeu formel, donc c'est-à-dire créer une construction qui puisse être d'une certaine manière cohérente, mais où la liberté de l'interprète existe tangiblement. Donc là, on a vraiment un enjeu formel hyper théorique. Et puis, on arrive à un espace-temps chorégraphique qui est véritablement vivant, où la question du sensuel, du sensoriel est vraiment tangible. Et ça, je trouve que c'est assez excitant, en fait.
Alors Olivier, on va quitter maintenant la danse, ou en tout cas ce qu'on pourrait strictement appeler la danse, pour se pencher sur un autre spectacle du Kunsten Festival des Arts. Et là, c'est vraiment des gens qu'on aborde avec beaucoup de curiosité, parce que c'est la première fois qu'ils viennent en Belgique en plus. Il s'agit d'une compagnie de Barcelone qui s'appelle, le nom est déjà extraordinaire, El Conde de Torrefiel, le Comte de Torrefiel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle et de ce conte?
Mais ce conte n'est pas unique. En fait, c'est un collectif de 5 acteurs catalans. Et le titre est pas mal non plus, en fait, hein, de la pièce qu'ils vont nous présenter ici. Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke. Hein, voilà.
On pourra peut-être traduire.
Oui, je vais vous traduire en français. Donc, c'est scène au pluriel, scène de conversation après le visionnement d'un film de Michael Haneke. Et en fait, de Michael Haneke, il ne sera absolument pas question. Et si on fait allusion à un film, c'est plutôt à celui de Lars von Trier, c'est Mélancolia. Et en fait, la seule vérité, si on veut, de ce titre, c'est qu'il s'agit effectivement d'histoires, de conversations, de scènes, de conversations. 12 histoires plus exactement ici. Alors, on a des amis qui se retrouvent autour d'un repas. Un homme qui, après avoir vu Mélancolia de Lars von Trier, se prend un verre dans un bar et observe la solitude des autres. Ou encore l'histoire d'une bande d'amis passant une nuit endiablée dans une Séville en pleine exaltation expiatoire de la Semana Santa. Alors, autant de récits plus racontés que vécus qui, par accumulation, distillent avec humour et presque détachement l'absurdité du monde et l'impossible liberté des moutons que nous sommes au final, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Alors, des histoires, et c'est là la singularité supplémentaire de ce El Conde de Torrefiel, c'est la forme qu'ils utilisent pour nous raconter ces histoires. Alors, tantôt elles sont livrées au micro par un narrateur qui nous tourne le dos, ou via un texte qui est projeté en fond de scène. Et face à ces récits, sont juxtaposés des corps qui se placent sur scène pour créer des images tantôt purement graphiques, tantôt clairement situationnistes par rapport à ce qui nous est raconté, tantôt métaphoriques, voire chorégraphico-burlesques. Et je dis burlesque parce que il y a quand même du sexe dans toutes ces histoires et dans ces corps qui nous sont montrés sur le plateau. Et le tout est comme ça servi dans un continuum qui, presque l'air de rien, semble nous appeler à la révolte, ou tout du moins semble nous pousser à la réaction, à réactiver notre regard sur notre propre vie et sur notre propre rapport aux autres.
Merci Olivier Espel. Donc, 3 spectacles que vous avez pointés pour nous dans ce Kunsten Festival des Arts, qui, on le rappelle, est un festival de création contemporaine. Il se déroule à Bruxelles jusqu'au 30 mai.
Voilà, et non seulement de création contemporaine, et qui cherche vraiment à nous montrer des formes, sinon pas nouvelles, en tout cas qui interrogent le rapport à la scène, mais en même temps qui interroge aussi, qui n'oublie pas plutôt d'interroger aussi notre regard sur le monde. Et ça, je trouve cette dualité-là, ou ce couple-là, est particulièrement riche.
Vous avez reconnu bien sûr le Sacre du printemps, encore un choix musical de nos invités d'aujourd'hui. Et nous retrouvons maintenant Caroline Lamarche. Bonjour Caroline. C'est une relecture que vous allez nous proposer aujourd'hui avec La promesse de l'aube, un des plus beaux livres de Romain Gary paru chez Folio. Et c'est un livre qui est déjà mythique.
Oui, bien sûr, et depuis longtemps d'ailleurs. Mais oui, en effet, un livre mythique. Et moi, je dirais que tous les livres de Romain Gary le sont, en quelque sorte. Mais moi, j'ai eu le sentiment d'avoir raté un anniversaire en 2014, parmi d'autres, hein, bien entendu. Romain Gary est né le 8 mai 1914, voici donc 101 ans, à Vilnius, de parents juifs askénazes. Et il s'est suicidé à l'âge de 66 ans, lui qui avait dit qu'il ne voulait pas vieillir.
Mais alors, une première question, Caroline. Pourquoi ce livre en particulier parmi tous ceux de Romain Gary?
Eh bien, en le relisant, je me suis dit c'est sans doute le plus beau livre sur une mère qui ait jamais été écrit. Et contrairement à Simone de Beauvoir, par exemple, dont le récit se nourrit de la décrépitude de sa mère, Romain Gary fait disparaître sa mère au moment où elle risque de n'être plus la femme combative et triomphante qu'elle a toujours été.
Mais alors, comment s'y prend-il pour la faire disparaître?
Si je le dis, je dévoile le dénouement stupéfiant de cette histoire. Disons qu'il y a là le portrait d'une femme exceptionnelle, divorcée du père de son enfant qu'elle a eu assez tard, à 35 ans. Elle ne se remariera jamais et elle consacrera tous ses efforts à l'éducation de son fils et à leur survie financière. Ils ont vécu à Vilnius, à Varsovie, à Nice. Elle fera toutes sortes de métiers avec une inventivité et une audace sans mélange, avec des moments de disette et des moments de faste. Alors elle fabriquait des chapeaux avec de fausses étiquettes Paul Poiret. Elle revendait des plombages en or. Elle a donné dans l'immobilier, elle a ouvert une pension. Elle tenait des vitrines de bijoux dans les hôtels. C'était une excentrique à la manière russe. Elle avait des colères terribles, elle pleurait facilement, elle faisait des scènes publiques, ce qui humiliait Romain. Un tel m'a insulté, va lui casser la gueule, ordonnait-elle, et Romain y allait. Or, c'était tout à fait contraire à son tempérament, c'était un garçon doux. Mais il est devenu par là violent à son tour et plein d'amour-propre. Et dans La promesse de l'aube, il y a un passage hilarant où il se bat en duel contre deux Polonais qui l'ont insulté en invitant à danser son flirt d'un soir, une jeune fille prétentieuse et insignifiante dont il voulait en fait se débarrasser.
Et donc cette femme, sa mère, c'est elle qui lui fait la promesse de l'aube.
Oui, la promesse de l'aube, c'est la promesse de cette mère de faire de son fils unique son seul trésor et, accessoirement, un génie. Dès le plus jeune âge, le jeune Romain à Vilnius est l'objet de la litanie maternelle. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Il a vite abandonné le dessin, car sa mère ne voulait pas d'un fils peintre. Elle disait que tous les grands peintres étaient morts fous ou syphilitiques. Mais pour le reste, il doit s'essayer à toutes sortes de disciplines pour la satisfaire, le piano, la danse, l'escrime, le cheval. À Varsovie, donc, où ils vivent un certain temps. Et puis à Nice, où ils obtiennent l'autorisation d'émigrer. Mais tout ça est loin d'être concluant, et suite à quoi, comme il est excellent à l'école, en rédaction, il décide, et sa mère aussi, qu'il va devenir un grand écrivain.
Et elle lui promet aussi, d'ailleurs, qu'il deviendra un jour ambassadeur de France.
Oui, parce que l'amour pour la France est avec l'amour pour la mère le fil rouge de ce livre. Et le désir de défendre la France pendant la guerre, de voler à son secours, est peut-être le lien le plus fort et le plus visible en tout cas entre l'histoire intime, celle d'une mère et de son fils, et la grande histoire. Car La promesse de l'aube, c'est aussi le récit du service militaire de Romain, de son engagement dans l'aviation, de son passage rocambolesque en Angleterre après l'appel de De Gaulle, et de la manière dont il a échappé au pire alors que tant de ses camarades ont été tués en vol. Des 250 aviateurs venus en Angleterre de l'Europe entière pour attaquer l'Allemagne, seuls 5 sont revenus.
Et il leur rend aussi hommage dans le livre.
Oui, il dit « Les vrais héros sont ceux qui sont morts » et il les nomme. Eux que l'histoire n'a pas nommés, en fait. Et donc c'est un livre d'aventure et un livre d'hommage. Hommage aux compagnons d'armes disparus, hommage à la mère qui est omniprésente dans les pensées du narrateur comme un double envahissant, en fait, qui le pousse toujours plus loin. Tu seras un héros, mon fils. Et chaque fois qu'il perdra confiance en son destin, Romain se souviendra de la manière dont elle a lutté, elle, pour leur survie.
Et son plus cher désir est de ne pas la décevoir.
Oui, exactement, et il traverse toute la guerre avec l'idée qu'il reviendra comme elle l'a voulu, en héros. Mais ça commence mal, il vole d'échec en échec, il casse plusieurs avions, décollage raté, vol idiot comme le jour où, avec un compagnon, ils ont voulu foncer sur un troupeau d'éléphants. Ou encore et surtout, assaut de l'aviation ennemie. Et en fin de compte, il écrit pendant ses rares moments libres de nuit à la lampe de poche un livre, L'éducation européenne, qui sera un best-seller traduit en anglais pendant la guerre et couvert d'éloges avant même de parvenir en France. Mais comme sa mère veut surtout qu'il soit un héros guerrier, il terminera aussi couvert de blessures et de décorations, tout en ayant l'élégance de prétendre qu'il a manqué les occasions d'en découdre vraiment avec l'ennemi. Et ça donne lieu à des pages tantôt hilarantes et tantôt poignantes. Le passage le plus fort, à mon avis, raconte comment, lors d'une attaque, son pilote, ayant été aveuglé par des éclats, il l'a guidé par la voix, a rempli sa mission de frappe de cible et a ramené l'avion à sa base, ce qui lui a valu une décoration prestigieuse.
Et on retrouve Romain Gary quand il revient de la guerre.
Eh bien, quand il revient, sa mère, qui souffrait de diabète, n'est plus. Et quand, en 1970, Romain Gary évoquera le décès de sa mère, il dira « Elle avait un seul trait de caractère, c'était moi. » Et il ajoutera « Il faut des années pour que votre personnalité s'adapte à un monde nouveau, celui où la personne qui était votre tout n'existe plus. Le monde entier n'est plus le même, c'est un changement de planète. »
On peut vraiment dire, Caroline, que l'après-mer, comme l'après-guerre, signera ce changement de planète.
Oui, oui, mais dans les beaux entretiens qu'on peut voir sur le site de l'INA, où on interroge Romain Gary sur la jeunesse des années 70, il ne perd pas son inaltérable confiance en l'humain et il nous dit « Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont sauvé l'Europe en 40. Il y a les blousons dorés, ceux qui se planquent, et les autres. C'est toujours une poignée qui ose regarder le danger dans les yeux. Et sans doute, enfin du moins je l'espère, pourrait-on en dire autant aujourd'hui ?»
Merci Caroline Lamarche. Rappelons que vous nous avez parlé de La promesse de l'aube, roman de Romain Gary qu'on peut lire maintenant en collection de poche et plus précisément chez Folio Gallimard. Thank you. Une partita de Jean-Sébastien Bach interprétée par Isabelle Faust, qui jouait sur un Stradivarius de 1704, superbement surnommé la Belle au bois dormant. Alors, nous parlons beaucoup du Kunsten Festival des Arts, mais nous n'oublions pas pour autant le concours Reine-Elisabeth. Bonjour Alexandre Weinberg.
Bonjour Dominique.
Nous allons parler du concours, mais à travers votre regard de scientifique.
Oui, et à travers le son des instruments. On pense qu'un bon violoniste sait tout de suite si un violon est un Stradivarius ou pas. Mais est-ce vraiment le cas? Et puis, on sait bien, les violonistes aiment les strades, et les auditeurs aussi, vraisemblablement. Mais pourquoi? Est-ce parce que ces joyaux historiques de la lutherie sonnent vraiment mieux, ou...
Pour d'autres raisons, peut-être.
Exactement. Alors, chers auditeurs, googlez les deux mots Stradivarius et évaluation au pluriel, et vous allez tomber sur un article étonnant, un vrai article scientifique, où des chercheurs ont voulu vérifier si la perception des violonistes est juste en ce qui concerne la qualité objective des Stradivari. Plus exactement, les chercheurs emmenés par Claudia Fritz, qui est acousticienne à l'Université de Paris 6, ont étudié la perception subjective des musiciens. Préféraient-ils réellement les anciens violons aux modernes, à de bons modernes? Ça existe aussi. Cet article est paru il y a 3 ans dans le PNAS, Proceedings of the National Academy of Science des États-Unis. Et voici comment les chercheurs ont procédé. Ils ont proposé à une 20aine de bons violonistes qui participaient au 8e concours international de violon d'Indianapolis de tester des violons dont au moins un Stradivarius. Ceci pour les motiver à participer à la recherche. En fait, il y avait 3 violons modernes et 3 anciens, 2 strades et 1 Guarnerius del Jésus. La recherche s'est faite en double aveugle, c'est-à-dire que le test se faisait dans une pièce sombre. L'assistant qui allait passer le violon au musicien le recevait de derrière une tenture et portait des lunettes de soudeur, de sorte qu'il ne savait pas quel violon il tenait lui-même en main. Et le musicien portait lui aussi des lunettes de soudeur pour qu'il joue sans voir l'instrument. Il le voyait, il le devinait pour pouvoir jouer, mais il ne voyait pas les détails. De plus, on avait pensé à parfumer les coussins d'épaule, les épaulières, pour empêcher que les violons soient reconnus à l'odeur. L'acoustique plutôt sèche de la pièce était comparable à celle qu'on trouve chez les luthiers, où les musiciens essaient les instruments. Et les artistes testeurs jouaient avec leur propre archet. Les musiciens ont d'abord comparé les instruments présentés par pair et joué 1 minute chacun. Lequel des 2 préférait-il? Puis, ils ont pu jouer les 6 violons dans l'ordre de leur choix, pendant 20 minutes chacun. Ils devaient noter la projection du son, la palette sonore, l'action de l'instrument, sa réponse, sa jouabilité... Déterminer le meilleur instrument à leurs oreilles et le moins bon, lequel ils emporteraient chez eux.
La question évidemment qu'on a envie de vous poser, Alexandre, oui. C'est, bah oui, quel était le résultat du test, évidemment?
D'abord, en général, les violonistes n'ont pas pu dire s'ils jouaient un instrument moderne ou ancien. Mais surtout, le violon préféré était neuf et le moins apprécié était le plus vieux Stradivarius. Patatras. Peut-être que la supériorité des Stradivari est un mythe. Quoique, puisque cette recherche est scientifique, elle est aussi critiquable par définition. Ben oui, ce n'est pas parce qu'elle a été conduite selon les règles de la recherche scientifique que ses conclusions sont nécessairement vraies. Si ses conclusions étaient nécessairement vraies, on serait dans le dogme ou la croyance. Or, il s'agit de science.
Et on a critiqué cette étude, alors?
Exactement, Dominique. Les solistes, d'abord, n'étaient pas tous de grands musiciens. Et confie-t-on une Ferrari à un débutant? L'expérience était trop courte. Il faut du temps à l'artiste pour sentir un nouveau violon, pour modeler son jeu en fonction de l'instrument. 3. Une chambre d'hôtel ou de luthier ne permet pas d'entendre le son de concert. Et puis enfin, seul, il est très difficile de juger de la projection de l'instrument. D'ailleurs, les auteurs ont bémolisé eux-mêmes la portée de leurs résultats. Citons-les en d'autres mots. Nous avons testé les préférences des solistes eux-mêmes, mais on peut avoir d'autres points de vue, comme celui de l'auditeur extérieur, du collègue de pupitre ou du chef d'orchestre. Il n'y a pas de raison de penser qu'une façon d'entendre est plus correcte qu'une autre. Un violoniste peut préférer un instrument plus facile à jouer pour lui. La musique sera meilleure et plus satisfaisante. Un autre violoniste peut considérer comme capitale la puissance projective de son son dans la salle de concert.
Donc on peut dire que cette étude n'est pas top.
Exactement, elle est critiquable. Alors, Alors, les chercheurs qui sont des chercheurs et qui sont à l'écoute des critiques, pour avancer dans cette réflexion sonore, ils ont poursuivi leur recherche et l'ont refait en mieux l'an passé. Elle est parue le 19 mai 2014, toujours dans PNAS. Mais cette fois, ça s'est passé en France. 10 musiciens connus comparaient en double aveugle 12 violons, 6 anciens et 6 modernes. Ils pouvaient jouer 75 minutes, devaient classer ceux qu'ils aimaient bien par ordre de préférence et les ont testés aussi dans une petite salle de concert, l'auditorium Jean-Pierre Miquel à Vincennes, pour sentir la projection du son vraiment. Ils avaient aussi des amis musiciens qui pouvaient leur donner un feedback de la salle ou inversement, qui pouvaient jouer sur scène et eux, les solistes, écoutaient alors le son dans la salle. Un pianiste pouvait aussi les accompagner en duo pour apprécier le son du violon dans le cadre harmonique de celui d'un piano. Enfin, et ceci est très important pour un artiste, ils pouvaient utiliser leur propre violon comme référence. Les 10 testeurs étaient Olivier Charlier, Pierre Fouchenneret, Yaya Suzanne Hou, Ilia Kaller, Elmar Oliveira, Tatsuki Narita, Solène Paidassi, Annick Roussin, Guillaume Schmidt et Stéphane Tran Gok, tous de grands artistes primés dans des concours internationaux. La grande question était, quel violon de cette série choisiriez-vous pour une prochaine tournée?
De nouveau question, Alexandre. Quel a été le résultat?
Eh bien, Dominique, tout se confirme. Après dépouillement, les solistes n'ont pas pu distinguer les violons anciens des modernes. En moyenne, ils ont donné une meilleure cote aux meilleurs violons modernes qu'aux meilleurs anciens pour la jouabilité, l'articulation et la projection du son. Seul le timbre était aussi beau chez les modernes que chez les anciens. Et enfin, le violon qui a recueilli le plus de suffrages est un moderne.
Et alors il y a la grande question aussi, c'est-à-dire quel violon ils prendraient pour leur prochaine tournée.
Là aussi, chers auditeurs, tout se confirme. 6 des 10 artistes ont choisi sans le savoir un violon moderne et 4 ont choisi un Stradivarius. Donc ici, c'est à peu près 50-50. Mais bon, ça questionne quand même l'immense supériorité des Strads. Bref, le mystère des Strads est peut-être une affaire de psychologie qui fait l'affaire des anciens violons. Comme le dit Kai Thomas Roth, secrétaire de l'Association des luthiers anglais, si vous donnez un strad à un musicien et que ça ne sonne pas, le musicien va se mettre lui-même en cause, alors qu'avec un violon moderne, il va plus facilement penser que c'est le violon qui ne sonne pas. Terminons ce voyage dans l'art et le plaisir par une information étonnante, chers auditeurs, qui va peut-être nous permettre de conclure. C'est une recherche qui porte sur l'appréciation du vin. On a fait goûter à des amateurs chevronnés des vins en aveugle. Mais les goûteurs connaissaient le prix du nectar. Les résultats étaient attendus. Les grands vins, plus chers que les piquettes, ont été reconnus et appréciés à leur juste valeur pour leur longueur en bouche, leur largeur, leurs arômes, l'équilibre entre l'acidité, les tanins, etc. Dixit les goûteurs. Ces bons vins ont donc été reconnus, Dominique. Sauf que c'était chaque fois le même vin. Ah ! Conclusion, l'appréciation est vraiment très subjective puisque le simple fait de connaître le prix influence le jugement. Oui, mais l'histoire ne finit pas ici. On a refait la même expérience sous imagerie fonctionnelle du cerveau. Un scanner permettait de voir pendant la dégustation le fonctionnement du cerveau en temps réel. Et vous savez quoi, Dominique ?
Non, mais vous allez nous le dire, évidemment, Alexandre.
Eh bien, pour les vins soi-disant les plus chers, les aires cérébrales du plaisir s'allumaient davantage. On a objectivé la subjectivité. La perception subjective est réelle. Le sujet goûte vraiment quelque chose en plus.
Et donc vous voulez dire qu'en matière de violon, il entend sans doute aussi autre chose.
Exactement. Et pour l'illustrer, terminons par cette anecdote racontée par le violoniste Gilles Millet au récent colloque d'Echo qui s'est tenu pendant les demi-finales du Reine Elisabeth. Echo, c'est le collectif des artisans luthiers de l'atelier Flaget, mené par Catherine Janssens, qu'on a entendu ici sur Musique 3. Alors, l'anecdote est la suivante. Son violon ne sonnait pas, il va chez son luthier, lui dit « Écoute, ça ne marche pas, tu ne veux pas m'arranger ça ?» Alors, le luthier regarde le violon, il dit « Écoute, va te promener pendant 2 heures, reviens, je te règle tout ça. » Il va se balader, Gilles revient, et il voit son violon, il dit « Oh, formidable. Qu'est-ce que tu as fait ? Ah ben, je l'ai nettoyé, voilà. Allez, tu veux me le jouer ? Ok. » Il joue de son violon qui sonne merveilleusement bien. Alors Gilles demande au luthier « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » Luthi a dit « Mais rien, j'ai nettoyé ton violon, il est joli. » Conclusion. La beauté de l'objet influe déjà sur la perception même du musicien. C'est lui-même, c'est Gilles Mier qui a raconté ça. Donc on peut penser qu'on joue mieux quand on a un Strad en main. C'est comme pour la colophane à 140 euros. La colophane, c'est cette résine jaune-brune appliquée sur la mèche de l'archet qui fait que le crin accroche bien la corde et la fait vibrer. Normalement, un bloc coûte de 2 à 20 euros. Alors pourquoi, diable, 140 euros ?
Mais j'allais vous le demander, évidemment.
Et c'est encore Gilles Mier qui raconte cette anecdote. Le vendeur lui dit « Mais parce qu'il y a de la poussière d'or dedans. » Alors Gilles répond « Mais franchement, ça ne change rien au son. » « Ben oui, oui, mais, chers auditeurs, il y a la psychologie du musicien. Vous vous rendez compte ? De l'or au bout des doigts, de l'or dans l'archet, de l'or dans le son. Il y a de quoi très bien jouer, non ? Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, parce que c'est une étude passionnante à lire en anglais, googlez les deux mots « Stradivarius » et « évaluation » au pluriel et vous tomberez sur ces études. Il y a aussi une vidéo qui est visible sur YouTube. Googlez « Stradivarius » Paris, expérimente.
Merci Alexandre Weinberg. Alors je vous souhaite bonne lecture, merci, puisque vous nous invitez à googler, comme vous dites. Mm-hmm. Bonne audition et bonne dégustation, puisqu'il s'agissait de vin aussi.
Exactement, et bonne écoute des finales du Reine Elisabeth pour ceux qui ont envie.
Merci à Fabrice Cada et Katia Madoul. Merci à nos chroniqueurs du jour, Paul Hermand, Olivier Spell, Caroline Lamarche et Alexandre Weinberg. Merci, bien sûr, à nos invités du collectif Transquinquennal, Bernard Breuse, Miguel Declercq et Stéphane Olivier. Et rappelons que vous pouvez vous-même choisir le spectacle que vous avez envie de voir en janvier prochain au Théâtre de Liège. 7 pièces vous sont proposées sur le site de Transquinquennal ou sur celui du Théâtre de Liège. La semaine prochaine, vous retrouverez Pascal Seyss. Elle recevra le photographe belge Harry Gruyart. Il est à l'honneur pour le moment à Paris avec une rétrospective à la Maison européenne de la photographie et aussi des photos dans plusieurs stations de métro avec en prime la publication d'un beau livre coédité par Textuel, Hannibal et Thames and Hudson. Restez bien sur Musique 3. Vous y retrouverez dans quelques instants Patrick Leterme pour l'émission « Une œuvre à l'oreille ». Plus.